Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de la Cantina Chic Tabac, le podcast où on parle de jeux vidéo autour d'une bonne bière corélienne. Et comme je n'aime pas boire seul, je le dis à chaque fois, ma blague est un peu éculée, mais en tout cas celui qui n'est pas éculé et qui est toujours avec moi, c'est Macrémic. Bienvenue Macrémic.
Salut.
Bon, en quoi de neuf Macrémic depuis le dernier podcast?
Bah écoute, depuis le premier podcast... Et une petite annonce qui a tout chamboulé et qui a rendu notre dernier podcast un petit peu... qui a foiré notre podcast en fait. Merci les mecs, parce qu'on avait parlé d'un jeu dont on n'espérait pas la suite et dont on pensait sérieusement qu'il n'y aurait jamais de suite. Et finalement, ils l'ont annoncé il y a quelques jours seulement. Donc t'as suivi l'actu et j'imagine, comme moi.
Exactement, et tu peux nous dire quel est ce fameux jeu quoi, dont on attendait pas la suite?
Ils ont annoncé Bloodlines 2... La suite de Vampire la Masquerade Bloodlines qui était sorti en 2004.
Et ouais, et donc et comme tu dis, c'est effectivement un jeu dont on avait parlé dans un podcast précédent. Et voilà, donc on va revenir quand même sur ce jeu-là. Effectivement, parce que cette annonce déjà nous a surpris, nous a beaucoup plu. On est, je pense, on peut le dire qu'on est vraiment hypé, que c'est un des jeux que moi j'attends le plus. Il sort en 2020 normalement, toi je suppose aussi.
Oui, oui, pour 2020 aussi, même si bon... Ils risquent, faut voir comment ils géreront la sortie. C'est juste une annonce. Pour le moment, on n'a pas encore vu grand chose. Si ça se trouve, il sera peut-être un petit peu reporté. Il faudra faire attention de ne pas se heurter au mastodonte Cyberpunk qui risque de sortir la même année aussi. Mais bon, ça, on en parlera plus tard.
Et on fera peut-être une émission là aussi sur Cyberpunk 2077. Mais en tout cas, on va pas parler de lui. On va parler donc effectivement de Vampire Bloodlines 2. Mais avant de parler de Vampire Bloodlines 2, on va parler un petit peu des autres vampires qui prennent place dans l'univers de ce qu'on appelle, en fait, comme tu l'as dit, la mascarade. Et justement, qu'est-ce que c'est la mascarade, mon cher Macrémic?
Donc la mascarade, en fait, c'est un univers qui avait été créé donc, par un éditeur au début des années 90. Parce qu'à la base, c'était un jeu de rôle papier. Et donc nous, on connaît ses déclinaisons en jeu vidéo avec Vampire la mascarade qui était sorti en 2001. Il me semble, oui c'est 2000 ou 2000,
je pense, 2000.
On avait déjà eu le doute au dernier podcast. Et
c'est ensuite... vrai qu'on refait exactement le même truc.
Les mêmes erreurs, comme quoi on prépare rien à l'avance, on est des ouf. Et donc ensuite il y a eu Vampire, la mascarade Bloodlines qui sortait en 2004, et donc là Bloodlines 2. Mais bon, de toute façon je vais te laisser parler un petit peu du jeu de rôle papier, parce que c'est, bien que tu sois pas adepte, c'est un sujet que tu connais un petit peu mieux que moi.
Alors, je suis pas totalement adepte. Alors, j'étais introduit quand même dans ce monde-là. J'ai eu la chance. Déjà, c'est grâce à quelqu'un qui jouait que je raconte ma vie et c'est passionnant. C'est un pote de lycée.
Non, mais t'as raison. Parce que moi, j'ai pas eu cette chance et c'est vrai que le jeu de rôle, c'est toujours un truc qui m'a franchement attiré, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Ça a toujours semblé tellement compliqué. Donc, je sais pas.
Ouais, mais justement, le jeu de rôle dans lequel prend place Vampire la Mascarade est justement moins compliqué que beaucoup de jeux de rôle, et je vais expliquer pourquoi rapidement. Après, s'il y en a qui sont vraiment des rôlistes et qui sont encore plus on va dire initiés à ce type de jeu, n'hésitez pas en commentaire justement à commenter. C'est à ça que servent les commentaires, pas insulter, hein, commenter. Et mais en tout cas, et puis développer. Mais effectivement, c'était un pote au lycée qui m'avait parlé. C'est comme ça que j'ai connu Vampire, donc le premier jeu vidéo qui était adapté de cet univers là qui était Vampire Redemption. On va en parler un peu plus tard. Et c'est peut-être même moi qui t'en ai parlé par la suite, d'ailleurs, ce
sujet-là. Oui. Effectivement, c'est Vampire la Mascarade Rédemption. J'avais oublié le Rédemption. Et oui, c'est toi qui me l'avais filé, en fait.
Quand on était au lycée, ça remonte à un petit moment, donc 2000. Et donc, c'était mon pote Jérôme. Je sais pas s'il écoutera le podcast, mais je lui en parle.
Jérôme.
Salut Jérôme. C'est moi. Non, je n'ai pas changé, tu vois. Oui, c'est moi Jérôme. C'est ça, c'est pas la chanson de c'est Jérôme. Je sais pas.
C'est ça.
J'aurais pas dû faire ça. Et en plus, c'est un truc que je vais même pas couper au montage. En tout cas, Redemption. Donc, il m'avait parlé. Il m'avait dit, il y a ce jeu vidéo là, ça devrait te plaire et tout. Et c'est lui qui m'avait commencé à me parler un peu du jeu de rôle. Mais j'avais pas trop joué au jeu de rôle. Et c'est quand j'étais à l'IUT, donc c'est des années plus tard, c'est en 2005-2006. Que tu tombais sur d'autres amis, donc Jean, s'il écoute le podcast.
Salut Jean.
Salut Jean, donc voilà, un très très grand copain. J'étais témoin à son mariage. Et le mariage dure encore, donc ça veut dire, et il durera éternellement, donc ça veut dire que j'ai fait bien mon job. Et en fait, chez lui qu'on a pu faire quelques parties justement de Vampire, et donc il avait les super bouquins qui permettaient d'avoir les scénarios, tout ça, d'expliquer. Donc là, je m'étais encore plus lancé là-dedans, puis on pouvait parler justement de Bloodlines, parce qu'il forcément il était fan du jeu. Donc, trêve de raconter ma vie, Le monde des ténèbres, en fait, Vampire Mascarade, ça fait partie de ce qu'on appelle le monde des ténèbres. Comme tu l'as dit, c'est un jeu de rôle, donc c'est même il y a plusieurs, en fait, histoires qui sont à l'intérieur. Donc ça a été créé en 1991 par White Wolf Publishing. On va dire que l'auteur principal, il s'appelle Mark Reinhagen. C'est un peu lui vraiment qui a lancé les bases. La Mascarade, c'était le premier jeu de rôle qui était tiré de cet univers-là. Après, on aura eu des jeux de rôle sur les loups-garous, sur les mages. Parce qu'il faut savoir que les vampires, les loups-garous, les mages se battent un petit peu dans notre monde. Hein, parce que c'est un jeu qui se passe dans l'univers contemporain, qu'ils appellent contemporain fantastique. Et il y a une touche, ce qu'ils appellent gothic punk. Donc on peut avoir retrouvé, par exemple, après, dans les écrits de Anne Rice. Anne Rice, qui a fait Entretien avec un vampire, La Reine des damnés, La Stade le vampire, et qui est vraiment une des grosses influences quand même de cet univers-là.
Et donc là, on parle de films. Hein, on
parle de romans qui ont été adaptés par la suite en film.
Qui ont été adaptés, parce que l'Entretien avec un vampire, ouais, c'était avec Tom Cruise et...
Et Brad Pitt. Et Antonio Banderas.
Ouais, exactement. La Reine des damnés, qui était la suite, qui était vachement moins bien, mais qui avait une BO qui déchirait. Et par contre, le troisième, il a été adapté ou pas?
Non, mais c'est toujours en projet. Il y a le projet de la série, hein, et je crois que c'est sur, c'est toujours en production. Donc voilà, donc c'est tiré des romans de Anne Rice, qui sont des super romans. Elle a fait tous des cycles de vampires, de sorcières. Enfin, c'est vraiment, elle a une super écriture en plus. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'écarte un petit peu, mais c'est quand même vraiment intéressant. Après, il y a d'autres livres de vampires, ce qu'ils appellent le côté vampire Bayou, hein. Donc un des trucs les plus connus, c'était ce qui a été adapté aussi. Alors je sais plus qui l'a écrit. Je crois que c'est Charlotte Harris. Je veux pas dire de bêtises. Et c'est tout ce qui était adapté après avec, comment s'appelait cette fameuse série qui se passait, tu sais, True Blood. Oui, Blood, j'ai mon super accent anglais pourri.
Ouais, c'est
pas grave. Non, mais je l'assume maintenant. Et donc voilà, bon bref, donc le monde des ténèbres, c'est ça. Donc il y a des jeux de rôle sur les vampires, donc la mascarade dont on va parler plus précisément, les loups-garous, les mages. Bref, ça a été vachement développé. Et donc c'est super intéressant. Et comme je te disais, ce qui est très bien, donc il y a eu plusieurs éditions, hein. La plus connue, c'est la troisième édition. C'est vraiment ce qui va générer après tout l'univers dans lequel vont s'inscrire les jeux vidéo dont on va parler. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, alors s'il y a bien, on utilise des dés, hein, comme dans les jeux, comment ça s'appelle, les jeux de rôle papier. Donc le premier système qu'ils vont voir, c'est le système D10. Donc ça, tu peux peut-être en parler parce que tu le connais mieux que moi.
Bah, D10, en fait, non, c'est tout simple. C'est juste que le chiffre, il indique le nombre de faces qu'il y a sur le dé. Donc nous, ce qu'on connaît comme dés, ce sont les D6, tout simplement. Et donc, ils ont pondu le D10 pour avoir des valeurs qui vont de 0 à 9. Et ensuite, il y a des dés avec toutes les faces. Donc, je sais qu'il y a le système D20 qui marche aussi. D10, c'est le plus courant parce que c'est ce qui marche avec Donjons et Dragons. Et je sais qu'on en avait déjà parlé parce que c'est là-dessus que marche Star Wars Knight of the Old Republic, qui était sorti en 2003. Derrière, ce qui tourne, c'est le système D10.
Oui, effectivement. D'ailleurs, je crois que tu m'avais expliqué à l'occasion de ce podcast-là, donc vous pourrez le réécouter aussi. C'était le premier sur les jeux Star Wars. Et en fait, donc le système D10, mais outre ce fait de système de dés, ce qui est très intéressant avec le monde des ténèbres, c'est qu'il va être très axé en fait sur le côté, ce qu'ils appellent le rôle du conteur. C'est vraiment ce qu'ils appellent justement le côté storyteller. C'est très très important. Et donc c'est vraiment ça qui fait tout le sel en fait de tous les jeux de rôle qui s'inscrivent dans le monde des ténèbres. Et qui fait que c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, abordable par des gens qui sont moins initiés au jeu de rôle.
Ouais, mais là, pour le coup, il faut quand même un sacré compteur. Le compteur, en fait, donc, ça remplace un petit peu le rôle du MJ, donc du maître joueur qui guide les joueurs. Et effectivement, donc, ils ont mis effectivement l'accent sur l'histoire, la narration, la prise de décision, plutôt que de balancer des dés à tour de bras. Donc effectivement, ça peut être super pour être initié à ça, mais il faut quelqu'un qui maîtrise quand même vraiment le sujet et qui sache raconter les histoires.
Exactement, c'est primordial, et après il faut jouer, tu vois, ce côté roleplay, tout ça. Et donc là, je refais une dédicace à mon pote Jean, qui est un super MJ, un super conteur. Et je me rappelle des parties qu'on avait fait où je jouais le rôle d'un toréador. On expliquera plus tard ce que c'est un toréador, ça n'a rien à voir avec Carmen. Et et en fait, où justement, j'étais un toréador et j'avais une goule. On expliquera aussi ce que c'est une goule. Et ma goule, c'était Milan Kundera, le célèbre romancier. Donc ça nous a fait assez triper. Voilà, c'était l'anecdote qui ne servait à rien. Voilà,
et que personne n'a compris, mais j'espère qu'on le comprendra plus tard.
Non, exactement. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut vraiment s'amuser. On peut vraiment vraiment dans un univers qui est très intéressant. Et faire du roleplay à fond, mais comme dans tous les jeux de rôle de toute manière. Et c'est vrai, comme tu dis, le plus important, c'est déjà sa volonté de nous d'y jouer, Mais c'est comme quand on joue à un jeu vidéo RPG, hein. Et aussi le côté du conteur. Donc là, le conteur, c'est quelqu'un qui parle, qui raconte. Et dans le jeu vidéo, évidemment, bah, le conteur, c'est un peu les creative directors. C'est eux qui servent à ça et qu'il faut pas qu'ils se plantent. Donc voilà, donc on va pas faire des tonnes sur la mascarade dans le côté papier. Mais en tout cas, voilà, ça s'est développé. Ils ont la première version du Monde des Ténèbres, donc World of Darkness, s'est arrêtée fin 2003. Il y a eu ce qu'ils appellent la GN. Ça, on en reviendra aussi dans... au niveau des vampires, donc c'est un peu la fin de ce monde-là. Et après, il a été rebooté plus tard avec Vampire Requiem, mais apparemment, ça a moins bien fonctionné. Donc ça, je n'y connais pas trop. Mais je sais que bon, l'essentiel de ce qu'ils appellent la mascarade, c'est vraiment de 1991 à 2003. Et on a d'ailleurs une version anniversaire qui est sortie à la fin des années 2010, qui s'appelle les 20 ans anniversaires, qui permettait justement d'avoir tout dans un super bouquin que je me suis acheté d'ailleurs moi-même, même si je fais pas du jeu de rôle, rien que pour les illustrations, pour les histoires, pour la manière dont c'est tout expliqué, c'est passionnant. Et ça a été traduit en français.
Il y a combien de pages dans ce bouquin?
Alors je l'ai pas sous les yeux. C'est bien de me poser que des questions où j'ai pas les réponses, c'est sympa.
Ouais, non, ben un paquet quoi. C'est
non, mais franchement, ouais, c'est il fait au moins 500 pages, je pense, le bouquin, et c'est un super beau bouquin. Je sais pas s'il est encore possible de le trouver parce que ça avait été traduit par une petite maison d'édition française spécialisée en fait dans le jeu de rôle. Donc voilà, donc ouais, c'est très intéressant. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si l'univers vous plaît. Et puis il y a des vidéos sur internet où les gens expliquent tout ça, c'est vraiment très intéressant. Justement, vu que l'univers est intéressant, le premier jeu donc qui va, pas de vampire, hein, mais le jeu qui va intégrer ce monde-là, justement, la mascarade, c'est celui dont tu as parlé, qui s'appelle Vampire the Masquerade Redemption, donc il sort en 2000. Et s'il utilise le nom et un peu l'univers, pour le coup, il se passe au début, il se passe pas dans la période contemporaine, il se passe au Moyen-Âge. Alors faut savoir qu'il y a une extension papier qui s'appelait Edge of Darkness, qui se passait pendant le Moyen-Âge, donc ils ont un peu remondi là-dessus. Et justement, donc il intègre un peu ce monde des ténèbres là. Il va en prendre quelques notions, mais c'est pas encore une version vraiment roleplay. C'est-à-dire que c'est plus axé sur l'action et le combat. Et en fait, on ne crée pas un personnage. En fait, on joue un personnage déjà créé. Donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu rapidement, Macrémique, de ce jeu-là?
Ouais, alors un petit peu. C'est très flou dans ma tête. Moi, je sais qu'on jouait un croisé et qui s'appelait Christophe et qui était français. Et que ça se passe au XIIe siècle. Voilà, c'est génial. Et donc, c'est la grande période des croisades. Donc, je sais qu'il est ils sont en guerre contre les musulmans, tout simplement. Et ensuite, je sais plus du tout à quel moment il va tomber dans cet univers qu'il aurait pas dû connaître. Je sais pas si t'en as des souvenirs un petit peu plus précis.
Ouais, alors c'est vrai que le jeu qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres jeux, et même dans Bloodlines, on en parlera plus tard, où en fait, tu commences au moment où tu es vampire. Où tu es transformé en vampire, tu es vampirisé, ce qu'ils appellent le baiser, hein, le The Embrace, ils appellent ça en anglais.
Ouais, l'étreinte, non, en français, non.
Ouais, mais merci, tu vois, le problème, c'est que quand tu refais les jeux après en anglais,
ouais,
je mixe...
Ouais, en VO, t'as du mal, ouais.
Ouais, je mixe les deux, c'est un peu le bazar. L'étreinte, c'est exactement le terme. Et là, en fait, pas du tout, dans celui-là, justement, au début, tu commences, tu es donc un humain croisé, effectivement, et donc il y a une vidéo très basique, très rapide, où le Christophe se fait blesser, donc il est envoyé à... on va dire à l'arrière-front, pour se faire retaper avant de repartir à faire la chair à hallebarde, hein, au deuxième siècle. Et donc il est dans un couvent, et donc là il va rencontrer une jeune sœur, hein, infirmière, qui s'appelle Agnieszka, et ça sera un peu le fil rouge de l'histoire. Donc il va un peu, voilà, c'est un peu love at first sight, comme on dit, hein, le coup de foudre. Et comme c'est un croisé, justement, la mère supérieure lui dit, bah, écoutez, il y a dans une mine désaffectée, il y a des monstres, allez voir ce que c'est, maintenant que vous êtes retapé, bon, allez voir ça. Donc c'est un peu le niveau tutoriel, on va dire. Et donc là, en fait, il va tuer, sans le savoir, une sorte de créature, je sais pas si c'est un vampire ou un monstre qui a été créé par un vampire. Il va revenir, il va essayer de compter fleurette à Agnieszka, mais le jeu terminerait si c'était comme ça, donc non, il va pas terminer. La bonne sœur, la mère supérieure arrive, elle lui dit « Oh là là, garçon, tu fais quoi là dans le couvent? T'as pas le droit, hein, tu crois quoi ?» Et la bonne sœur, elle a fait ses vœux, va plutôt faire la ronde dans les quartiers, donc ça se passe on est à Prague à ce moment-là, au XIIe siècle, donc voilà, va dans les quartiers qui sont tout sombre et tout ça.
Ils sont tout pourris où personne veut aller, ouais.
Ouais, exactement, tiens, on te file une torche pourrie là qui éclaire que dalle, vas-y. Donc bon, ah, on est là.
Je me souviens de la torche qui éclaire rien.
Ah bah oui, elle était pas mal ça. Ça c'était, je sais pas si c'était un choix de game design ou si c'était tout simplement qu'ils avaient pas pu bien l'animer parce qu'il y avait des problèmes d'animation quand même. Et donc voilà, donc tu vas te balader et là tu tombes sur une vampire justement qui va te faire l'étreindre parce que justement elle s'est dit, bah tiens, lui, rien que humain, il a déjà nettoyé une mine, donc ça pourrait être un bon allié et donc elle va te faire l'étreindre. Elle s'appelle Ekaterina. Donc il y a une vidéo ça et donc là tu deviens à ce moment-là vampire et tu vas commencer, on va te filer alors une quête. Ce qu'il faut préciser, donc je l'ai déjà dit, c'est que le jeu est linéaire, il n'y a pas de quête secondaire et on suit la trame narrative au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Donc voilà, donc après ça, on va avancer, donc on va avoir des partenaires qui vont être avec nous dans l'univers d'un vampire, quand il y a plusieurs partenaires, ce qu'on appelle une coterie. Et donc je me rappelle plus des noms par contre des personnages. Je crois qu'il y avait Wilfried ou Willem qui est un peu le gars qui est vraiment, c'est ton gars sûr, on va dire. Et donc voilà,
c'est le gars qu'on a du début jusqu'à la fin, je crois.
En fait, on le perd à un moment, mais on va le retrouver à la fin et tout ça, ouais. Et donc voilà, donc on va aller faire des, donc on est à Prague, donc au Moyen Âge. Et puis après, je te laisse, tu te souviens un petit peu de ce qu'il y avait après, des grandes lignes. On va pas trop parler un peu de l'histoire, même si l'histoire était assez basique. Hein, c'est pas.
Ouais, c'était assez basique parce que ça laissait la part belle au combat. Donc c'est un jeu qui est. Oui, non. Est-ce qu'on peut dire que c'est la troisième personne?
Il est entièrement la troisième personne, celui-là. Ouais,
ouais c'est ça. Ouais. Donc oui, c'est vraiment axé combat, il n'y a pas énormément de dialogue, etc. Après Prague, on va dans une autre ville. C'est laquelle?
C'est Vienne, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est Vienne, voilà, merci, c'était en Autriche. Et on en avait déjà parlé. Donc à Vienne, donc en fait, on va, je ne sais plus comment, donc on va se faire enfermer dans un cercueil. Et on va être en état de torpeur. Ça, c'est toi qui me l'as dit, je m'en suis souvenu.
C'est la torpeur. Parce qu'un vampire, en fait, dans l'univers de la mascarade, le pieu dans le cœur ne tue pas le vampire. En fait, il le met en état de torpeur. Il l'immobilise.
Il faut retirer le pieu pour le sortir de l'état de torpeur.
Exactement, ouais. Et donc, effectivement, le personnage se retrouve dans l'état de torpeur. Et je crois qu'il est enseveli sous un château parce qu'on rencontre le grand méchant du jeu.
Ah oui. Dans des décombres, dans des ruines. Et du coup, il est déterré. Donc 700 ans plus tard, à l'ère moderne, donc on va dire dans les années fin 90, ouais. À Londres.
C'est à Londres, effectivement, le premier hub. En fait, il y a 4 hubs dans le jeu. Hein. Il y a 2 hubs au Moyen-Âge, donc qui sont Prague, Vienne, et effectivement, après, il y a Londres, et il y aura New York par la suite. Donc, il est déterré, donc voilà, donc forcément, il y a tout un jeu qui est assez sympa, mais malheureusement, il passe très vite dessus sur le fait qu'il découvre un petit peu le nouveau monde, on va dire, et puis il dit mais c'est quoi ces nouvelles tenues et tout ça, donc ils ont pas trop.
Qu'est-ce que c'est que cette boisson, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces armes, enfin la première fois qu'il découvre un flingue, il dit mais où sont nos épées, non mais c'est fini mec.
Et puis surtout il a ce côté très pro chevalier, donc mais le problème c'est qu'en fait contrairement à Bloodlines où il y a une finesse d'écriture et de l'humour, il y a pas énormément non plus, enfin l'écriture est pas extraordinaire. Alors le studio qu'il avait développé c'était Nihilic Software, je sais même plus ce qu'ils ont fait.
Oui, Software.
Et donc, effectivement, voilà, la qualité d'écriture n'était pas quand même hyper au rendez-vous, ça se suivait assez bien. Donc, en fait, le truc qu'ils ont trouvé, c'est que le grand méchant a transformé, en fait, Agnieszka, elle n'est pas morte. Donc, c'est un peu la quête de son amour, hein, l'amour éternel. Donc, elle est devenue sa goule. Donc, c'est le moment de dire ce qu'est une goule.
Donc, une goule, c'est pas un vampire. Elle dépend d'un vampire parce qu'elle boit son sang, en fait. Mais elle n'est pas transformée, je crois.
Non, exactement, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tant qu'elle boit le sang d'un vampire, et donc elle est liée à ce vampire, elle peut vivre longtemps. Mais effectivement, si par contre le vampire meurt, adieu la goule.
Elle est dépendante, donc elle mourra aussi.
Et c'est un peu des servants, en fait, des vampires, ça. Ils leur servent aussi à aller faire des courses, enfin des courses, pas les courses au supermarché, évidemment, mais aller d'un point A à d'un point B, voilà, parce que forcément, ils peuvent se balader, interagir, et donc souvent, voilà, les vampires ont des goules. Et donc là, effectivement, donc dans le scénario, ça va être que il faut aller taper le grand méchant, mais il faut arriver à sauver Agnieszka. Alors, comment faire? Il y avait 2 fins disponibles dans le jeu, d'ailleurs.
Oui, je crois qu'il y en avait plusieurs. Pour moi, il y en avait 3 ou 4, je crois.
Ah ben tu vois, je m'en rappelle plus, tu fais bien de le dire.
Ouais, il y en a une, enfin l'happy end, où en fait on tue le méchant et on finit avec la fille.
Oui, on la vampirise en fait, on lui fait une étreinte.
On la vampirise, tout à fait. Je me souviens où il y en a une, en fait, on devient... Ah oui, parce qu'il propose... Ouais, c'est ça, je crois qu'il propose de s'allier avec lui, parce qu'il me propose son sang, je crois. Alors... Je sais qu'il y a une version, en fait, où on meurt, et puis une autre, en fait, on est tellement... badass qu'en fait on tue tout le monde, etc. Enfin bref.
Mais en fait, il y a une version très sombre où en fait on va carrément le méchant, au lieu de le tuer dans un combat, on va en fait le mordre. Et ce qu'on appelle dans l'univers en fait de la mascarade, c'est un truc qui est interdit par beaucoup de vampires, mais pas par les méchants justement, qui s'appelle la diablerie. La diablerie en fait, c'est aspirer tout le sang d'un vampire et même toute son âme. Et ce qui permet en fait de prendre toute sa substance. Et donc c'est quelque chose qui permet de rendre plus puissant un vampire, mais qui est totalement interdit dans l'univers en fait de la mascarade.
Tout à fait.
D'ailleurs, on parle de mascarade, on n'a pas dit ce que c'était la mascarade. C'est peut-être important de le dire. La mascarade, c'est en fait le terme qu'emploient les vampires pour se dissimuler aux yeux des humains. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place. Ils vivent dans le monde des humains. Mais justement, le but, c'est que les humains ne soient pas au courant. Et c'est donc ce qui s'appelle justement une mascarade. Et il y a donc la plupart des vampires veulent justement vivre comme ça. Mais il y a des vampires qui, eux, veulent dominer les humains parce que c'est que de la chair à canon, ça ne sert à rien. Qui font partie de ce qu'on appelle le sabbat. Et qui, eux, justement, ben, prônent justement la toute-puissance des vampires. Et donc, ben, voilà, c'est défoncer les humains et puis régner sur la terre. Et ceux qui seront contre la plupart des vampires qui sont justement dans la mascarade, ça sera ce qu'on appelle la Camarilla. Mais ça, on va en parler plus tard quand on parlera de Boulins 2, parce que c'est très important dans ce jeu-là, alors que c'était pas spécialement important dans Redemption. Donc Redemption, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Si ce n'est que le jeu a suffisamment bien marché pour que Activision, alors c'était Activision qui a, c'est important de le dire, qui a édité ce jeu-là. Et donc Activision se dit, ben, on va lancer une suite, mais cette fois-ci, on ne le fera pas avec Nihilistic Software, on va le faire avec Troika Games, qui était un studio tout récent, fondé par Tim Kaine, Leonard Boyarsky et Anderson, mais je n'ai plus son prénom, je suis désolé pour lui, qui étaient donc des personnes qui avaient bossé sur les Fallout, donc vraiment des spécialistes du jeu de rôle. Et donc ils ont dit, ben, on va lancer le fameux Vampires the Masquerade Bloodlines, donc qui va sortir en 2004. Est-ce que tu peux rappeler rapidement un petit peu l'histoire du développement et de la sortie de ce jeu-là? On en a déjà parlé, mais bon.
Oui, tout à fait. Donc, grosse publicité à l'époque, puisque Bloodlines était le seul jeu qui utilisait le moteur de Half-Life 2, qui n'était pas encore sorti. Valve avait pondu donc le moteur source donc pour Half-Life 2, et Bloodlines était le seul qui allait pouvoir s'en servir en tant que développeur, on va dire, client. Donc là, on s'est dit, ben, c'est génial, en fait, ça va déchirer, parce que les images d'Half-Life 2 à l'E3 défonçaient tout techniquement. Sauf que, donc, il y avait une petite clause là-dedans, c'est que Half-Life 2 devait sortir avant Bloodlines. Et donc, Half-Life 2, on a déjà fait un petit peu son parcours, hein, dans le podcast qui parlait des suites. C'est que, il a eu grosso modo un an de retard parce que, ils se sont plantés en communication, le jeu était pas prêt, ils se sont fait pirater, etc. Tout le monde a dit que ça sortait en septembre 2003, et en fait, non, à deux semaines de la sortie, ils ont dit, on va le repousser. Et donc, ça sortira quand ce sera prêt. Et donc, c'est sorti un an plus tard, et donc, quelques semaines après, donc, ça y est, Activision sort enfin Bloodlines. Et là, en fait, c'est un petit peu... forcément, on fait le comparatif entre les deux jeux, et en fait, tu vois les mecs qui ont codé le moteur et qui en avaient la maîtrise, la connaissance, qui ont fait un truc qui était franchement super techniquement génial. Et tu vois que Troika, ils savent écrire un jeu, mais ils savent peut-être pas forcément le développer, malheureusement. Techniquement, c'était un petit peu décevant.
Surtout, le truc qu'il y a, c'est que le jeu était pas fini. Troika voulait avoir plus de temps et qu'Activision a dit non, on va le sortir en l'état. Et donc, il l'a sorti en même temps qu'Half-Life 2, qui est attendu par tout le monde. Donc, en fait, faire encore un grand coup. On a déjà dit dans le podcast, mais on le répète chaque fois, merci Activision, qui justement ne leur a pas laissé le temps de le peaufiner. Et donc, ce qui fait que le jeu sort amputé
très buggé, ouais.
Il est très buggé. Et effectivement, en plus, il est amputé, et pour le sortir, il ampute de pas mal de musique, de personnages, de quêtes et d'arc narratif.
Ouais, de quêtes, de contenu, etc. Ils ont zappé toute la phase un petit peu contrôle qualité, on va dire, si bien qu'il y avait des bugs absolument insupportables où t'étais complètement bloqué. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, et c'est ce qui a précipité la fermeture du studio, malheureusement.
Donc voilà, comme tu dis, on avait déjà parlé, donc Troika va fermer ça. Mais bon, avant de parler malheureusement de la fermeture de Troika, on va peut-être parler justement du jeu en lui-même. Donc le jeu, l'histoire pour le coup, est-ce que tu t'en souviens exactement de l'histoire? Je sais que tu t'en souviens quand même beaucoup plus, parce que celui-là, on l'a vraiment retourné quand même beaucoup de fois.
On l'a quand même fait pas mal, que ce soit en vanilla ou avec des patchs, mais dont on parlera un peu plus tard. Donc oui, pour le coup, donc l'histoire, elle est extrêmement simple. Donc alors, on n'incarne pas un humain, mais donc il y a une vidéo d'intro qui nous présente. Donc, on est un humain qui a une aventure d'un soir avec quelqu'un. Et sauf que, on ne le sait pas, ce quelqu'un, en fait, il va donc nous vampiriser. Donc là, la Camarilla débarque, et donc il nous plante un pieu dans le cœur à tous les deux. Ça ne tue pas. Et puis ils nous font passer un petit peu au tribunal des vampires avec les représentants de tous les clans pour décider du sort, enfin de notre sort et de celui qui nous a vampirisé. Donc bon, la sentence tombe, celui qui nous a vampirisé est condamné à mort parce que c'est interdit de convertir, on va dire, quelqu'un sans consentement de la communauté. Et nous, finalement, la surprise générale, donc on nous laisse en vie parce que bon, on est un petit jeune dans ce monde, et donc bon, ben faut qu'on trouve nos marques, etc. Donc finalement, la Camarilla va plus ou moins nous prendre par l'épaule pour parce qu'en fait ils vont avoir besoin de nous, donc c'est il y a un but aussi derrière, hein. c'est pas un acte désintéressé, il y a un intérêt pour eux derrière. Donc voilà, ça commence comme ça et on est donc à Los Angeles.
Voilà, ouais, et justement comme tu dis, le truc intéressant, et je vais le préciser parce qu'on va comme ça rentrer un peu plus aussi dans ce qu'est le jeu de rôle vampire, on va pouvoir faire les deux, parce que pour le coup Bloodlines il s'appuie vraiment 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 beaucoup sur le jeu de rôle papier. On va retrouver tous les tenants aboutissants. Et ce qu'ils ont compris, contrairement justement à ce qu'on avait dans Redemption, c'est qu'il y a tout ce côté manipulation. Et effectivement, en fait, si le personnage qu'on joue est entre guillemets sauvé, c'est parce qu'en fait on est un peu un pion. Et dans les jeux de rôle, c'est pareil, quand on crée un nouveau personnage, on est souvent, il y a des vampires qui sont beaucoup plus anciens. On va parler un petit peu aussi des clans, parce que là justement, différence, on joue un personnage qu'on crée, donc on a tout un choix de clans qu'on peut créer ou pas. Donc on va parler des clans, de qu'est-ce que ça fait, d'où ils font partie. Et donc tout ce côté manipulation, le côté où on est un peu un pion, légitime le côté des quêtes qu'on doit faire. En fait, on est obligé limite d'accepter certaines quêtes. Après, on pourra, plus on évolue dans le jeu, refuser. Et puis il y a tout ce côté politique aussi qui rentre en scène. Mais justement, voilà, c'est là où il y a beaucoup plus de contenu et de profondeur qu'il y avait dans le jeu Redemption en Bloodlines pour le coup.
Ouais.
Et comme tu dis, c'est beaucoup mieux écrit en plus, de toute manière. On est vraiment sur quasiment les personnes qui à l'époque écrivaient le mieux. Et de toute manière, le jeu, même à l'heure actuelle, on l'avait déjà dit dans le précédent podcast, mais sorti de son aspect graphique, technique, tout ça, en termes d'écriture, au niveau, donc c'était un CRPG, hein, puisque c'est sorti que sur PC à l'époque. Mais même au niveau d'écriture RPG, je pense que même de tous les jeux vidéo, il doit défoncer à peu près 95% de l'ensemble des jeux vidéo, même actuels, quoi. En termes de qualité d'écriture, c'est tout simplement fantastique. Et donc justement, à la création du personnage, donc on peut créer ce personnage, donc on peut être un homme ou une femme. Et aussi, il y a tout ce qui est les clans. Donc, on n'a pas parlé des clans jusqu'à maintenant, c'est important. Donc, la Camarilla, on l'a dit, c'est un petit peu donc, celle qui est un peu la société où, qui promulgue la mascarade, même s'ils ne sont pas les seuls.
Ouais, qui en assure un peu le contrôle aussi.
Donc, voilà, donc, ils dirigeaient dans chaque lieu où se trouve. Donc, là, on est à Los Angeles, parce qu'ils appellent un prince. Et Los Angeles, en plus, c'est intéressant, parce que c'est expliqué dès le début du jeu. C'est d'abord, à l'origine, c'était quelque chose, il n'y avait ni la Camarilla, ni le Sabbat, c'est ce qu'ils appelaient les anarques. Les anarques, c'est des vampires qui sont d'accord avec la mascarade, mais qui n'ont pas envie, en fait, d'être sous la loi de la Camarilla, qui contrôle un petit peu tout ça, et qui sont contre le Sabbat. Et donc, c'est un peu un terrain de jeu où il y a des grosses luttes politiques et d'influence. Et donc, justement, quand tu crées ton personnage, donc il y a différents clans, et donc, quand le jeu est sorti à l'origine, justement, on pouvait jouer les 7 clans qui sont affiliés à la Camarilla. Donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement des clans qu'il y a?
Oula, alors ça va être un petit peu compliqué parce que je les connais pas tous par cœur, mais effectivement, donc on va dire que tu vas avoir par exemple, parce que là j'ai refait le test tout à l'heure, parce qu'on pouvait aussi faire un petit test, on va dire, de personnalité, et le jeu nous sortait le clan avec qui on avait a priori le plus d'affinité. Mais pour en faire la liste vite fait, donc il y a les Brujas. Je sais pas si la prononciation est bonne.
Bah, moi je dirais Brujas, mais comme j'ai comme on sait que ma façon de parler des fois anglais français, on sait jamais trop, donc je ne peux pas te dire que c'est. Mais je crois que c'est Brujas.
Ouais. Donc voilà, donc c'est un clan qui soutient la Camarilla. Donc
qui fournit quand même le plus d'anarques. C'est-à-dire qu'en fait ils sont dans la Camarilla, mais souvent ils sont un peu.
C'est un peu anarque, voilà, c'est un peu flou. Ouais, ils sont limite. Il y a les Gangrels. Donc eux, c'est un clan qui avait pactisé à l'époque avec les loups-garous. Donc c'est un truc très proche de la marine et de la nature, et ils sont ils peuvent changer de forme aussi, ils peuvent se transformer, il me semble.
Oui, donc, d'ailleurs on croise un personnage qui justement peut se transformer en loup.
Voilà donc ils ont le pouvoir de se transformer. Alors il y a les Malkaviens, alors ceux-là on va peut-être revenir après parce que c'est le plus tordu.
Ouais, c'est très intéressant. Les... On en parlera dans le
Nosferatu. Donc, alors ça c'est très très compliqué à jouer. Donc c'est surnommé les rats d'égout, et pour cause, en fait, les Nosferatu, c'est une race qui est absolument hideuse. Franchement, ils sont moches, moches, moches. Et du coup, dans ce jeu-là, en fait, on ne peut se balader que à travers le réseau d'égouts pour aller d'un lieu à un autre. On ne peut pas se balader en pleine rue.
Bah, disons qu'il faut le jouer en infiltration, tu ne peux pas être vu parce que comme tu es repoussant, puisque les Nosferatu, le nom l'indique. Alors ce qu'on dit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un clan, en fait, ça donne des bonus et des malus. En différents, parce qu'il y a vraiment beaucoup de, que ce soit au niveau de piratage, crochetage, infiltration, combat avec armes, manipulation, enfin c'est vraiment très très développé, on est vraiment dans le côté jeu de rôle. Et le Nosferatu, pourquoi son nom? Parce que Nosferatu, pour le coup, ça vient de Nosferatu, donc le fameux film, pour ceux qui connaissent, donc il y a eu plusieurs versions, mais la première, c'est une adaptation, on va dire, de Dracula d'une certaine façon, qui était réalisé, c'était un film muet par Willem Murnau. Et qui est un grand grand film, voilà, je vous le conseille, je le dis au passage, mais ça permet aussi de parler des films de vampires, il y en a eu très bien. Après il y a eu une autre version avec Klaus Kinski de Werner Herzog aussi, que j'aime moins personnellement, mais bon voilà, donc ce sont des vampires qui sont assez difformes, et d'ailleurs souvent, d'ailleurs on va croiser des personnages qui étaient humains en fait, qui étaient justement des personnes des fois qui sont trop narcissiques, qui misent trop sur l'apparence, et donc les Nosferatu aiment bien justement aller faire une étreinte sur ces gens-là, pour les transformer en quelque chose de plus grotesque, parce que c'est une manière un peu de leur dire que, vous voyez, c'est pas que l'image, il n'y a pas que la vanité. Et donc on croise des personnages comme ça dans le jeu qui sont des Nosferatu, mais on se rend compte que quand ils étaient humains, c'était des gens qui étaient vachement dans l'apparence et dans le côté un peu factice.
Ouais, ouais. On tombe sur des Nosferatu un petit peu top model, etc. C'est franchement comique.
C'est assez intéressant la manière dont ils parlent de ça.
Ensuite, il y a les Toréadors dont on a parlé au début, donc eux, c'est un petit peu les moins vampires des vampires. Donc ils sont très proches du milieu artistique et aussi un petit peu politique. Ils restent très proches des humains. Donc on va dire que c'est pas les intellos, mais bon.
Voilà, ils sont plus dans la séduction en fait.
Ouais, tout à fait. On a les Tréméré. Donc eux c'est des sorciers. Ils sont très structurés là-dedans. Et voilà. Ensuite voilà, c'est un peu flou, mais je sais qu'ils sont très orientés sorcellerie, magie, etc.
Ouais, exactement. Et donc tous ces clans-là, en fait, à chaque fois, comme je l'ai dit, quand on choisit le personnage, ça permet d'avoir des différents pouvoirs. Et donc avec les Tréméré, ben justement, il y aura toutes les magies de sang, parce que en fait, ils ont des côtés, ils sont très entre eux. Justement, ils veulent pas dévoiler la magie du sang. Par exemple, si on joue un personnage qui n'est pas un Tréméré, eh ben on n'aura pas accès à certains types de quêtes et de pouvoirs. Et même, on peut avoir des appartements qui servent un peu de hub. Eh bien, il y a un appartement spécial au Tréméré qui est super sympa en plus, mais on pourra pas l'avoir si on ne fait pas partir.
J'avais adoré jouer ce clan-là. Et donc le dernier, donc les Malkaviens, on l'a énuméré. Alors les Malkaviens, c'est le truc le plus délirant en fait. Ils sont très mystérieux, mais en fait ils sont un peu timbrés dans leur tête. Les Malkaviens, en fait, on dit qu'ils entendent toujours une petite voix qui leur susurre, des mots. Enfin c'est n'importe quoi. Donc je sais pas comment les décrire en fait.
Je vais mettre des guillemets parce que ça peut être source de problèmes. Je voudrais pas dire n'importe quoi. Il y a côté un peu de la, en fait, on va dire, c'est un peu de la schizophrénie.
Et, oui, tout à fait.
Mais en fait, ils ont aussi justement ce côté-là. Ils ont aussi de la précognition. Et c'est-à-dire qu'en fait, le Malkavien, il peut des fois, en fait, découvrir des choses, savoir des choses sur les autres, parce qu'en fait, il peut entendre aussi dans la tête des autres. Mais malheureusement, il ne pourra pas forcément le verbaliser. Et ce qui fait que dans le jeu, c'est vraiment traduit, parce que dans le jeu, quand on le joue, déjà, on entend des voix. Là, j'ai refait une partie justement avec une Malkavienne. Et à un moment, en fait, je suis en train de faire je sais pas quoi. Et là, le mec me dit ne fais pas ça, maman va pas être contente. J'étais là, je dis wow, attends. Il y a des trucs comme
vrai
ça.
Que donc... les choix de dialogue sont collecteurs.
Et donc, ça, c'est au niveau du sound design. Et effectivement, au niveau des dialogues, tous les dialogues, toutes les répliques qu'on a qui vont être les mêmes pour tous les clans différents. Donc, on va choisir entre différents. Et puis, si on peut intimider tout ça, donc on aura les mêmes dialogues. Sauf que tous les dialogues ont été entièrement réécrits pour les Malkaviens. Donc, c'est tout un autre jeu. Et il faut même nous-mêmes essayer de comprendre des fois ce qu'il dit, parce que des fois tu peux te retrouver à insulter quelqu'un ou à même le draguer, le séduire, alors que c'est pas ce que tu voulais faire. Et ça peut amener à des situations où le gars en fait commence à dire quelque chose, tu l'insultes sans savoir et le mec commence à te sauter dessus alors que c'est pas ce que tu voulais dire.
C'est vrai qu'il y a des répliques qui a priori n'ont absolument aucun sens, et c'est vrai qu'il faut bien prendre son temps pour déchiffrer les choix possibles avant de répondre. Ouais.
C'est ça, en fait, c'est que ça a un sens, mais il faut vraiment arriver à être dans le roleplay pour comprendre les tenants, les aboutissants. Alors en plus, moi, comme je te dis, je suis en train de refaire en anglais, donc des fois, c'est tendu, mais il y a des super répliques, c'est super bien écrit. Et même, on en apprend des fois sur les personnages. Par exemple, il y a des personnages qu'on va croiser, des PNJ. Dans mes autres parties, je connaissais même pas leur vrai nom. Que là, en fait, le Malkavian, lui, peut avoir ce genre de connaissances-là parce qu'il a une sorte de précognition. Donc, c'est vraiment super intéressant à jouer. Et c'est donc voilà. Et donc, le jeu quelque part, au niveau des dialogues, a été réécrit deux fois. Donc, c'est pour dire la somme de travail qui a été fait par les auteurs. C'est quand même assez fantastique. Donc, c'est les sept clans dans lesquels on peut choisir. Après, il y aura des modes où on pourra jouer d'autres clans parce que justement. Dans l'univers de Vampyr, il y a 13 clans en fait. Donc il y a les 7 qui font partie de la Camarilla dont on a parlé. Pourquoi 13 clans en fait? Parce que je l'ai pas dit, c'est important dans le jeu de Vampyr, c'est que tout la trame principale de Bloodlines, alors il y aura plein de quêtes secondaires, on va pas en parler hein, mais il y a vraiment beaucoup de quêtes secondaires qui sont très bien écrites, très bien ficelées, même des fois celles qui pourraient être des quêtes FedEx. La manière dont ça dénoue des dialogues, des personnages sera toujours intéressant. Quelque part, ça anticipe un peu ce qu'on pourra retrouver de manière plus développé et plus, on va dire, plus exponentiel dans The Witcher 3. Mais il y a déjà ce côté-là de l'écriture, en fait. Et donc, c'est qu'il y a un sarcophage, et donc les différents se battent pour récupérer un peu le contrôle de Los Angeles, et dans le sarcophage qui s'est échoué à bord d'un mystérieux navire, on va devoir enquêter là-dessus, les vampires, certains penseraient qu'il y aurait le corps d'un antidiluvien et que ça créait la GN. Alors, je vais expliquer rapidement ce que c'est tout ça. La GN pour les vampires, dans l'univers du jeu vidéo et du jeu de rôle, c'est un peu la fin, c'est l'apocalypse, c'est la fin des temps, c'est les antidiluviens, donc en fait c'est les vampires les plus anciens quasiment, c'est les vampires ce qu'on appelle la troisième génération. Donc la première génération, le premier vampire, ça serait Cain. Donc Cain, ça vient de la Bible, qui a tué son frère Abel, Dieu, forcément après qu'il ait tué son frère, l'a exilé, et comme Cain en fait ne voulait pas s'excuser, ils l'ont transformé en vampire. Après quoi Cain va errer tout seul, il va tomber sur Lilith, qui était la première femme en fait de Adam avant qu'il rencontre Ève. Lilith qui est une sorte de sorcière qui va lui apprendre justement des voies un peu de la magie, de la sorcellerie. C'est pour ça que les vampires ont des pouvoirs, en plus d'avoir ce truc du sang, ils ont aussi des pouvoirs, ce qu'on appelle donc les pouvoirs, les disciplines vampiriques. Donc chaque clan a des disciplines différentes. Après ceci, Cain, il va créer donc, comme il est tout seul, une seconde génération de vampires, donc les vampires de la seconde génération, qui eux vont créer une troisième génération. C'est eux qu'on appelle les antidiluviens, parce qu'antidiluviens, ça veut dire avant le déluge, donc avant le déluge de Noé. Donc ces antidiluviens, ils ont fait quoi? Bon, Cain, il a disparu. Ben, ils ont dit, bon, nous, on est 13, donc ils étaient 13, d'où les 13 clans. On va tuer les vampires de la seconde génération, donc ils les ont défoncés. Comme ça, ils ont contrôlé tout le monde. Et au fil des siècles, ces antidiluviens ont disparu. Et donc les croyances vampires sont la GN. Ça serait que les antidiluviens, un jour, vont se réveiller, vont réapparaître, et vont tuer tous les vampires des générations qui ont découlé. Donc c'est un peu ce qui fait peur à tout le monde, et donc c'est dans ce cadre-là, dans cet univers-là, en fait, que se déroule le jeu. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça, la GN, ça les antédiluviens. Donc 13 clans, donc il y a les 7 que t'as nommés, Macrémic, qui font partie de la Camarilla. Après, il y a 2 clans qui font partie donc du Sabbat, donc je l'ai dit, le Sabbat, eux, ils sont pour défoncer les humains, parce que ça sert à rien, les humains, c'est juste de la nourriture.
Donc, ouais, on est vraiment dans c'est un peu du satanisme, finalement, on est dans le culte complètement du satanisme, du sang, etc.
Oui, et puis c'est surtout assumer totalement le fait d'être des vampires, pourquoi en fait batailler à vivre ouais. Par rapport aux humains. C'est un peu ce qu'on retrouve par exemple dans les X-Men, pour ceux qui connaissent les comics, avec le côté Charles Xavier, on va se mélanger aux humains, et après les autres qui disent non mais les humains en fait ils font que des conneries, tout ça, on est supérieur à eux, comme par exemple Magneto, pour mettre de manière... Ouais. Et là je vais me faire insulter peut-être par les gens des comics qui me diront mais c'est pas ça, mais bon, pour faire un peu large. Donc il y a deux clans.
C'est assez particulier parce que... effectivement, ils s'en cachent pas, mais là, on est vraiment dans l'horreur. Ils ont des cornes de partout. Ils ressemblent à rien.
Ils ressemblent à rien. Ils assument totalement leur côté de la bête parce que
totalement, ouais. Eux, ils font pas ami avec les humains. Et ils les défoncent et puis voilà.
Et oui, et puis ils contrôlent la chair. Ils soient sur eux-mêmes la matière de la chair, du sang. Et donc voilà, effectivement. Et parce qu'en fait, chaque vampire a à l'intérieur de lui ce qu'on appelle la bête qui réclame du sang. Et donc, suivant, si tu laisses la bête prendre le dessus sur toi, tu deviens plus ou moins monstrueux, entre guillemets. Et si tu ne laisses pas prendre la bête sur toi, tu peux être plus humain. D'ailleurs, il y a toute une gestion de l'humanité dans le jeu, en fait. Plus tu fais des saloperies, plus tu perds en humanité, et plus justement ça peut...
T'as une jauge d'humanité, ouais.
Et ça peut relâcher le contrôle de la bête. Ça veut dire qu'après, tu peux te retrouver à la bête prendre le dessus sur toi, et donc tu deviens limite pas un zombie, mais tu peux attaquer quelqu'un sans même le vouloir, quoi.
Ouais, avec les conséquences que ça peut avoir, ouais.
Exactement. Donc il y a deux clans, donc les Simicés qui viendraient de Transylvanie, donc Dracula ça serait d'ailleurs un Simicé, donc voilà, donc comme tu dis, c'est eux souvent qui ont des ils ont un côté plus monstrueux entre guillemets, ils l'assument totalement. Et on a aussi les La Sombra qui sont un petit peu les vampires qui sont dans le sabbat, mais qui sont plus dans la manipulation. Ils aiment en fait contrôler les choses et foutre le bordel, mais c'est un peu les Littlefinger, on va dire, de vampires, de l'univers de vampires un peu. Hein. Si on collait Game of Thrones, voilà, c'est ce côté. Je déplace mes pions, je fous le bordel et puis je règne sur le chaos. Et chaos is a ladder, comme ils disent dans la série. Donc ça, c'est les clans du sabbat. Et ensuite, il y a quatre clans qui sont un petit peu neutres, qui ont chacun leur propre chose. Donc ça va être les Assamites, donc c'est un clan qui est plus ou moins des clans d'assassins qui du côté de la Turquie je crois au départ, et donc qui sont un peu entre deux, qui bon voilà quoi, ils sont dans leur coin. On a les Ravnos qui correspondraient, qui sont des vampires qui se baladent un petit peu, qui sont assez itinérants dans le monde, donc souvent ils sont un peu dépeints comme les vampires un peu on va dire des gens du voyage, les Tziganes, ce genre de voilà de peuplades en fait nomades. Et ensuite il en reste deux.
Alors, il y a les Giovanni.
Ouais, les Giovanni. Donc, les Giovanni, c'est un clan qui vient de Venise, je crois, enfin d'Italie, c'est sûr.
Ah oui, ça fait très mafia, nom de mafieux.
Ben, c'est ça, c'est parce fait... qu'ils restent dans la famille entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les Giovanni qui sont vampires ne vont donner l'étreinte qu'à des Giovanni, tu vois, je fais des mots valises. des Giovanni qui sont humains, donc il y a tout un système de castes. Ils sont limite assez incestueux. C'est un peu les Targaryens, on va dire.
C'est un peu pensé à comment ça s'appelait au Vatican, la Beau. Ah, je sais plus.
Non, ben là, je
Ah, mais si, il y avait une série.
Ah, les Borgia.
Les Borgia, voilà.
Il y a peut-être ce côté-là. Moi, j'étais parti sur les Targaryens, j'étais encore dans mon truc de Game of Thrones.
Ouais.
Mais, et donc voilà, donc eux, ils sont un peu dans le côté aussi de l'occultisme et tout. Et ensuite, il y a les Sétites, donc qui descendraient de Seth, donc dieu égyptien. Et qui, eux, sont. Eux, ils aiment foutre la merde, en fait, de toute manière, mais sans être dans le sabbat. Donc voilà, donc en tout, ça fait 13 clans. Et ce sont donc les 13 clans. Que des modes après justement qui vont être créés par la communauté pourront permettre justement de jouer tous les clans possibles, alors que dans le jeu de base on pouvait jouer que 7 clans, et donc ils vont même permettre aussi de jouer le sabbat, puisque dans le jeu tu ne peux pas rejoindre le sabbat qu'avec les modes on pourra. Et pourquoi je parle des modes là, donc pour faire rapidement sur le jeu, comme j'ai dit on va pas parler des 4 ni rien, juste faut dire que au niveau des musiques, au niveau de l'écriture, du doublage, parce que tous les personnages sauf le nôtre qu'on joue sont doublés, sont super bien doublés. Et au niveau de l'animation, c'est pas toujours bon, donc on l'avait dit dans le précédent podcast, les animations, les combats sont quand même foirés. Par contre, la direction artistique est très bonne, et surtout ce qui est très très fabuleux pour l'époque, c'est les animations des visages. Sont vraiment très, chaque personnage a une animation qui correspond vraiment à sa personnalité, et donc ça rend vraiment quelque chose de vraiment unique à chaque fois. Et il y a des jeux qui sont sortis bien des années plus tard, j'avais vu une vidéo comparative, par exemple, si vous jouez à Vampire Bloodlines de 2004 et que vous regardez les animations par exemple de Fallout 4 des PNJ, ben limite c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus pas réaliste, mais on y croit beaucoup plus et c'est beaucoup plus mieux animé en fait. Vampire Bloodlines, c'était assez ahurissant. Ouais. En fait.
Bah sur le budget animation, ils ont mis 90% dans la tête et 10% dans le reste. Ça se voit, il suffit juste de trouver. Non mais sérieusement, il suffit juste de choper sur YouTube la vidéo d'introduction qui raconte tout ce que j'ai raconté là. Enfin, tu vois les démarches, etc. Ah oui, ils font bouger les seins des persos féminins quand ils marchent. C'est un peu débile, mais tout le reste, c'est très rigide, malheureusement. Mais bon, heureusement que ouais, ils ont mis l'accent sur les visages, parce que c'est cette période de jeu où quand on parle à quelqu'un, il y a un gros plan sur le visage et les dialogues défilent, etc. Donc heureusement ouais, qu'ils ont mis l'accent là-dessus.
Donc avant de parler justement d'attaquer sur le côté mode, parce que justement c'est les modes, comme le jeu est pas fini, qui vont débloquer tout ça, et ça je vais te laisser en parler. On a juste oublié un septième clan dans la Camarilla qui est très important, parce que c'est un peu eux qui font un peu les princes, enfin pas des princes, mais en tout cas qui font un peu, c'est les Ventrus. Les Ventrus qui sont un peu les, on va dire ceux qui se prennent un peu pour les aristos en fait de la Camarilla. Donc souvent ils sont haut placés, ils aiment pas trop salir les mains. Et d'ailleurs le prince, donc c'est le nom de ceux qui dirigent la Camarilla, pour lequel on travaille au début, après on pourra faire choisir nos factions ou pas, c'est justement un ventru et c'est un peu qui dirige tout ouais, ça, et donc ils sont pas forcément ouais. appréciés des autres parce qu'ils sont un peu puants et un
ils
peu...
Ils s'estiment un petit peu au-dessus, ouais, c'est les bobos, ouais. C'est le bobo des vampires.
C'est bobo des vampires. Donc est-ce que tu peux parler justement rapidement des modes?
Oui, on va parler un petit peu des modes, donc comme on l'a dit, donc déception du jeu à la sortie. Donc du coup le suivi derrière il était pas tip top, ils ont sorti quelques patchs quand même en catastrophe pour essayer de rattraper un petit peu le tir, mais bon malheureusement ça n'a pas suffi et donc le studio a fermé. Qu'à cela ne tienne, la communauté s'est emparée du jeu, on fait dire entre guillemets emparée, et donc eux en fait ils ont décidé de continuer le travail des développeurs, donc déjà en corrigeant un maximum de bugs, que ce soit graphique, de script, enfin c'est essentiellement de script. Et ensuite, donc, ils vont s'efforcer donc, de rajouter le contenu qui était présent, mais qui a été coupé au montage, entre guillemets. Et puis, tant qu'on y est, on continue, donc on va rajouter des trucs, voilà. Donc cette communauté, elle a été très active pendant des années. Et donc les patchs continuent de sortir jusqu'à maintenant, puisque le dernier, donc il y avait un gros patch, la version 10 je crois, qui était sortie en 2016, et donc ils ont sorti encore un petit patch, on n'y croyait plus, en mars de cette année, donc 15 ans après quasiment. Il y a des gens qui continuent de travailler dessus pour... Donc là on est plus franchement dans le correctif, on est plus dans l'ajout de contenu, donc avec les clans comme tu disais... etc.
Mais en fait, ouais, il y a deux choses différentes. Alors, on va pas mettre sur tous les add-ons, tous les modes où c'est des skins, des trucs comme ça. Mais en fait, il y a deux vraiment choses différentes qui sont été développées au fur et à mesure des années. C'est il y a quelque chose qui rajoute vraiment tout l'univers des jeux de rôle papier, donc ce qu'ils appellent le mode clan et quest. Donc là, ça change quand même le jeu, puisqu'on va pouvoir jouer justement les clans comme les La Sombra, les Sétites, j'en ai parlé plus tôt, on va pouvoir rejoindre le Sabbat. Donc ça, c'est un jeu à part. Et il y a ce qu'on appelle le unofficial patch, qui lui, ouais. Par contre, son but, c'est de débloquer tout ce qui devait être à l'origine dans le jeu. Donc en fait, voilà, quand on refait le jeu, soit on peut jouer avec les modes et clans pour avoir une version plus proche du jeu papier, soit avec l'unofficial patch pour avoir justement la version qu'auraient voulu les développeurs. Il faut savoir d'ailleurs que ceux qui ont développé ce patch-là, hein, donc le UP, on va l'appeler, unofficial patch, ils ont contacté par exemple les développeurs originaux, hein, pas forcément pour avoir des avis, tout ça, mais juste pour savoir ce qu'il fallait rajouter, pour un peu leur parler de leur projet. Et ils ont aussi contacté, par exemple, le compositeur qui s'appelle Rick Schaffer, qui fait une super musique, la musique du jeu, avec une sorte d'ambiance qui est vraiment extraordinaire, qui lui a donné justement des pistes qui avaient été coupées ou qu'il n'avait pas intégrées dans le jeu, pour justement rajouter du contenu. Donc voilà, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est disponible souvent sur GOG, sur Steam aussi, mais sur GOG, il installe de base avec ce patch, unofficial patch. Donc il faut savoir que quand il installe les correctifs, que si vous voulez vraiment débloquer tout ce qui était à l'origine, il faut quand même télécharger sur les sites de mod le fameux patch qui est sorti récemment, 10.3, qui lui a une version plus, qui amène des correctifs aussi visuels et aussi plein de quêtes débloquées. Donc voilà, donc ça permet d'avoir vraiment le jeu tel que, pas tel qu'il est sorti en 2004, mais tel que les développeurs de Troika Games voulaient le sortir et qu'on n'aura jamais vu. Donc ça, c'est vraiment une expérience très proche qui est très intéressante. Et entre temps, on pensait ne pas avoir de suite, il y avait un projet de MMORPG qui avait été lancé, puisqu'il faut savoir que Wild Wolf en 2006 a été racheté par CCP Games, donc c'est eux qui produisent notamment le jeu EVE Online, et donc il y aurait normalement un projet de jeu MMORPG, World of Darkness, qui va traîner pendant plus de 8 ans, qui verra jamais le jour, et en 2014, le jeu tombe à l'eau, CCP Games tue le projet, White Wolf a été revendu une nouvelle fois, cette fois-ci donc à Paradox Interactive, et donc à ce moment-là, on se dit peut-être que ça sera des nouveaux jeux vampires, d'autant qu'à cette époque, à Paradox, il y avait Obsidian, qui sont des grands studios de développement de jeux vidéo, souvent des RPG, qu'on ne présente plus, hein, Fallout New Vegas, avant ça il y avait eu aussi Alpha Protocol, évidemment KOTOR 2.
KOTOR 2, ouais, surtout.
Et puis après Pillar of Eternity, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, on avait espéré ça, c'était un fantasme, mais on n'avait jamais de nouvelles. Et finalement, Obsidian est parti dans le giron de Microsoft très récemment, donc on se dit, là c'est un peu mort. Et pourtant, on a eu un paradoxe, ça a commencé à teaser, et ça tu vas pouvoir nous en parler, Macramic, de ce teasing qui a été progressif pour nous amener à cette fameuse annonce mi-mars sur ce Bloodlines 2.
Ouais, donc c'est très très subtil et très compliqué, effectivement. Donc ils ont mis en place une sorte de donc un ARG, donc c'est Alternate Reality Game. Donc en fait, c'est souvent des jeux de pistes. Donc j'en avais pas mal parlé quand Valve avait fait la même chose avec Portal 2, où ils avaient rajouté des énigmes dans Portal 1 et en dehors. Donc eux, ils ont fait pas tout à fait pareil, ils ont pas rajouté des trucs dans Bloodlines 1, hein, faut pas déconner non plus. Mais donc ils ont commencé à balancer des infos via Twitter, donc ils ont lancé des énigmes. Via un compte factice, etc. Ils ont créé beaucoup de faux sites internet, notamment Trust No More au début, et avec un jeu de piste qui donc demandait aux joueurs aussi d'aller chercher des indices sur place. Donc pour passer rapidement, donc il y avait un petit jeu de piste donc à Los Angeles où finalement ça se finit à l'observatoire, et puis ils tombent sur un mec qui leur dit trust no more ou trust nobody, je sais pas quoi. On leur remet une mallette à code, encore des indices, il faut aller chercher les codes. Et là, on ouvre le contenu de la mallette avec des faux documents, des lunettes de soleil et deux, trois petits trucs comme ça. Et de fil en aiguille, enfin, ça va aussi carrément au hacking, mais à des messages balancés sur des streams. Par exemple, des gens qui streament un jeu qui n'a rien à voir. Donc, j'en ai vu un, c'était Red Dead Redemption 2. Ils streament, et puis en plein milieu du stream, en fait, il y a comme une sorte de splash screen. Je ne sais pas le dire en français, comment on peut dire ça. Enfin bref, c'est un écran qui défile avec des lettres et chiffres qui ne veulent rien dire. Et là, tu vois tous les mecs dans le chat, ils disent mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et même lui, en fait, il savait pas.
Alors qu'en fait, c'était le bandeau du stagiaire BFM qui met des fautes partout.
Voilà, voilà. Donc, c'est le stagiaire qui s'occupait de ça. Et donc, bref, donc, en recoupant toutes les informations, ben bon, mais finalement, on tombe aussi donc sur alors ce truc fantastique. Donc, c'était d'abord sur un accès très privé. Ils avaient envoyé des clés à certaines personnes. Donc, sur un site qui s'appelle Tinder, qui est un site de rencontre. Donc, ça fait forcément écho à Tinder, qui lui est un vrai site. Tinder, donc c'est fantastique parce que ensuite ça a été accessible à tout le monde parce que tu y es allé toi aussi.
Oui, mais moi non, mais en fait moi je voulais aller sur Tinder et en fait j'ai fait une faute de frappe.
T'as trouvé l'âme sœur sur Tinder?
Non, voilà, c'est pour ça. Non. Mais en même temps, moi je vis dans un trou paumé, donc même avec Tinder. Non, mais sorti de la blague, effectivement, après ça a été accessible à tout le monde et c'est vrai que
ouais,
là.
Tinder, donc c'est du genre, ben, on vous demande votre groupe sanguin, ce que vous sentez vraiment seul, des questions un petit peu atypiques et qui veut nous faire croire qu'en fait on va rencontrer d'autres usagers sur ce site là.
Ouais. Et c'est là que la rumeur d'un jeu vampire a commencé à vraiment prendre de l'importance.
Voilà, parce que Tinder, on voit bien, Tinder, bon, c'est il y a un côté très 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 charnel déjà dans le titre. Et puis ensuite il y a beaucoup de questions sur le sang, etc. On se dit bon, ok, il se passe quelque chose, il est en train de se passer quelque chose. Et donc finalement, donc toujours sur ce site, il y a des quêtes qu'on peut faire. Donc il y a des petites vidéos, il faut chercher des réponses. Donc soit sur par rapport à de vraies informations ou sur les faux sites, donc de Trust No More, etc. Il faut aller voir le pedigree du mec qui a fondé la boîte. Les messages sur le forum, etc. Donc à la fin, justement, on va rencontrer des personnes sur Tinder, on va discuter avec elles. Donc, effectivement, donc ce ne sont pas des vraies personnes, ce sont ce qu'on appelle des chatbots. Donc c'est des programmes en fait qui répondent aux phrases qu'on pose. Donc bon, ça peut donner lieu à des dialogues un petit peu abscons. Mais quand on pose de bonnes questions, donc là on voit tout de suite, ils ont dit non, ben là on est vraiment sur le bon truc. Quand on pose de bonnes questions, genre pourquoi vous êtes sur Tinder et pourquoi tu t'es engueulé j'ai oublié le nom du faux type, enfin bref. Donc tout ceci va mener à des indices, et puis là on va se dire, là il y a un truc sous la licence vampire qui va sortir, c'est obligé.
Oui, parce que ce site-là, en fait, c'était propulsé par une filiale de Paradox, justement.
Voilà, par Paradox, et donc, au final, la finalité du truc, finalement, c'est qu'on débloquait des images, on débloquait des artworks, et quand on voyait l'ambiance, le graphisme, etc., on s'est dit, bah là, c'est obligé, c'est un truc aussi sombre que Bloodlines, donc il y a un truc qui va sortir.
Ouais. Et il y avait une date, et il y a la fameuse date qui était lancée, qui était donc du 21 mars.
Tout à fait.
Et un événement à la GDC.
Donc à la GDC, comme j'ai dit, il y avait des parcours à Los Angeles, il y en avait eu à San Francisco aussi. Enfin bon, voilà, c'est franchement très 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 complet. On va pas rentrer dans tous les détails, mais bon, c'est à base de constellations, de QR codes, etc. On pourra peut-être balancer le lien qui résume tout l'ARG, parce que les mecs, ils se sont quand même donné beaucoup beaucoup de mal.
Oui, parce qu'il y a eu des trucs avec donc. En grandeur nature, hein, c'est comme du jeu de rôle grandeur nature, puisque c'est des jeux de rôle papier qui est en grandeur nature. Vous avez une ouais. Vidéo, je mettrai peut-être en lien là d'une, alors c'est en anglais, je crois que ça s'appelle Outstar, qui justement parle un petit peu de elle a vécu et elle parle un peu de comment ça s'est passé et tout ça. Donc je mettrai peut-être le lien justement en description de cette vidéo là, si vous voulez faire voir un petit peu ce qu'elle en parle. Et sa vidéo autour de vampire, de l'univers vampire, ces vidéos sont très intéressantes. Donc voilà, si vous comprenez, vous êtes anglophone, c'est en tout cas assez sympa à suivre. Et donc la fameuse annonce du 21 mars, donc effectivement c'est Bloodlines 2 qui ne se passera pas à Los Angeles, parce que les images on pensait que c'était Santa Monica comme dans les jeux, non c'était à Seattle, et donc voilà, donc justement le jeu est annoncé, et ensuite on a quelques infos qui sortent dans les articles. Alors moi j'avais lu celui de Kotaku où il parle un petit peu du scénario de départ, et après ils ont pu voir un Behind Closed Door, en fait quelques niveaux, quelques façons de fonctionner au niveau des quêtes. Partons peut-être du scénario, le scénario de base. Donc en fait, le scénario, donc ça se passe à Seattle, et ça se passe dans ce qu'ils appellent en fait The Mass Embrace. Donc en fait, c'est un peu l'étreinte de masse, et beaucoup de vampires ont été créés le même soir. On ne sait pas pourquoi. Et donc le vampire qu'on va jouer, pour le coup, sera différent, puisque au début du jeu, on va pas choisir le clan dont on fait partie. On va évoluer un petit peu, et on aura le choix plus tard de faire le clan. Et on va être un vampire, ce qu'ils appellent en fait les Sin Blood. Donc en fait, je crois que c'est les sangs clairs en français. C'était des vampires qu'on croisait un petit peu, donc ils sont moins puissants. Puisque le sang, en fait, l'importance du sang est très importante dans les vampires. Donc les Sin Blood, les sangs clairs. Et c'est des personnages apparemment qui ont pris de l'importance au niveau du jeu de rôle papier au fur et à mesure des années. Donc ça, je suis pas assez bien placé. Je l'avais vu dans la vidéo de l'affiche justement dont je vous ai parlé, Outstar, qui l'expliquait un petit peu tout ça, parce qu'il y a tout un univers canon autour de vampires. Ils disent qu'on devrait recroiser certains personnages qu'il y avait dans Bloodlines aussi, on ne sait pas encore lesquels, parce que suivant l'univers canon de vampires, il y en a qui sont morts, pas d'autres, enfin voilà, donc ça on verra, ça sera la surprise. Et donc on va jouer donc un personnage qui, ben voilà, est transformé, comme en fait on n'a pas de sire, donc le sire c'est le maître vampire, on va dire, hein, on est un peu les padawans de son sire, pour placer une référence Star Wars. On doit être tué, donc ça rappelle un peu Bloodlines, mais il y a une explosion, donc finalement on s'échappe et on doit enquêter sur ça, et après on pourra choisir. Et donc voilà, donc ça c'est le scénario de base. Ils disent qu'il y aura beaucoup de quêtes, que le monde sera encore plus vivant, que suivant ce qu'on fait, par exemple si on attaque trop les gens en plein jour, eh bien il y aura moins de PNJ après qui se baladeront dans les rues parce qu'ils auront peur. Donc voilà, ça sera un monde vraiment organique. Et donc voilà, donc ils ont promis plein de choses, c'est effectivement des promesses. On a vu très peu de choses nous. On a que les retours justement des journalistes spécialisés sur Kotaku ou sur d'autres. Je dis Kotaku parce que j'aime beaucoup ce qu'ils écrivent, mais ça peut être après d'autres articles. Hein. Vous irez sur les sites de news que vous aimez le plus. Ça vous faites comme vous voulez. Et ils ont parlé un petit peu aussi des systèmes de combat, puisqu'apparemment le système de combat sera... Dans le précédent jeu, on avait le côté FPS. Alors c'était à chaque fois calculé par rapport à des jeux de dés fictifs.
Ouais, alors que c'était un RPG qui était derrière, parce que ça calculait la statistique de l'arme, ta capacité à la manier, etc. Donc c'est pas un FPS à proprement parler.
Ouais, c'était un RPG à vue FPS. Donc...
Tout à fait, parce qu'on voyait les dégâts défiler au-dessus aussi. Donc,
Là, on ne sait pas encore. Apparemment, ça sera peut-être un peu comme Mirror's Edge. La journaliste disait qu'apparemment, les armes, on pourra les prendre au fur et à mesure du combat, les armes à feu, mais ça sera plus axé sur les mains nues, enfin, la mêlée.
Ouais, les pouvoirs. Ouais.
Et les pouvoirs. Donc voilà. Et après, on pourra vraiment mettre des armes de compétences différentes. Donc c'est ce qu'ils ont un peu raconté. Ils ont parlé un peu d'un côté, je crois qu'une des senior writers du jeu, on va parler un peu des gens qui sont derrière quand même. Donc le studio, je sais plus comment il s'appelle, c'est Hot Suit Labs, c'est ça?
Oula.
C'est un studio, je sais plus trop ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont bossé sur un FPS qui a été annulé et je connaissais pas du tout.
Ils ont pas fait grand chose en fait.
Ouais. Donc c'est un peu, ils ont été rachetés assez récemment par Paradox. Et donc par contre, on va retrouver à l'écriture Brian Mitsoda qui était l'auteur principal avec Boyarsky tout ça sur le Bloodlines, le premier du nom, donc quelqu'un qui connaît vraiment l'univers. Donc ça c'est une très bonne chose. Il y a aussi Chris Avellone qui a annoncé qu'il avait participé à l'écriture. Donc Chris Avellone, c'est probablement un des meilleurs auteurs dans le jeu vidéo. Donc il est bossé chez Obsidian avant. Il a bossé aussi sur sur Fallout New Vegas, Alpha Protocol. Et puis maintenant, il est en freelance et il vient en fait faire un peu du consultant auteur sur différents projets. On sait qu'il va travailler aussi sur le prochain jeu Star Wars, Jedi Fallen Order. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très très bon. Donc du beau monde dans l'écriture. Une femme aussi qui a travaillé, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Ellison, sur Dishonored 2. Donc il parlait de ce rapport aussi avec l'univers un peu à la Dishonored. Ça serait un peu cette même manière d'univers un peu organique et la manière du personnage d'évoluer, donc système un peu FPS. Donc voilà, donc c'est un peu les choses qu'on sait. Et autre dernière chose qui a été confirmée par un compte d'un journaliste de GamerGen, c'est que Rick Schaefer, on en a parlé, qui est adoré par la communauté au niveau des musiques, a annoncé qu'il était peut-être pas le seul compositeur, mais qu'il était le compositeur principal, qu'il avait composé plus d'une heure de musique pour ce jeu-là. Donc voilà, donc on retrouve quand même une partie des équipes qui avaient bossé sur Bloodlines, des gens qui sont habitués à écrire du RPG, donc voilà. Ça donne vraiment envie. Après, il faudra voir aussi, on en parlait pour Bloodlines, le côté technique, parce que c'est un petit studio. Hein. Ils parlaient d'un studio de, ils sont, je crois, 40 ou 60 personnes à bosser dessus, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est pas du triple A, quoi. On n'est pas sur les mastodontes que peuvent faire, je parle même pas de Rockstar, mais Ubi et compagnie. Donc on est quand même sur un studio plus petit.
Non, mais ensuite, bon, moi je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je trouve qu'on est à une époque maintenant où tu utilises des moteurs qui sont rodés, que ce soit l'Unreal Engine ou Unity. Avoir des jeux qui sont complètement ratés techniquement, faut vraiment pas avoir de moyens du tout. Tu peux avoir donc sans avoir un truc qui déchire complètement graphiquement, tu peux avoir quelque chose comme par exemple le dernier Vampire de Dontnod. Il tabasse pas graphiquement, mais franchement c'est déjà largement suffisant. Puis il est propre.
Oui, bah après, bah comme tu dis, de toute façon, si le jeu, la sortie du jeu n'est pas rushée, et c'est là qu'on revient sur Activision et les jeux qui rushent les sorties, en théorie, le jeu, il peut être, comme tu dis, le contrôle derrière et tout ça, fait que le jeu peut sortir de manière propre, quoi. À part si oui. On s'appelle Bethesda et qu'on a envie justement de dire, bah les modeurs, vous êtes doués. Peut-être que Paradox va se dire, bon, mais en même temps, la communauté est puissante chez Vampire, on va sortir un jeu buggé, ils feront des mods. Bon, en espérant qu'on va pas tomber dans ce... J'adore Bethesda, hein, parce que j'adore les Fallout, j'adore les Skyrim et compagnie, les Elder Scrolls, mais bon, si on pouvait éviter de dire, bon, on va sortir ce jeu-là, il sera buggé, de toute façon, vous aurez un patch Day One de 20 Go, et puis de toute façon, la communauté va faire des mods. Bon, espérons, je pense pas que ce soit trop le côté de Paradox, les jeux qui sont sortis récemment sur leur bannière, alors je crois qu'ils ont sorti, c'est eux qui avaient édité des jeux comme, si je dis pas de bêtises, ceux qui ont fait Tyranny, Pillar of Eternity, c'était aussi... Ils font les Europa ouais. Universalis, si je dis pas de bêtises, mais ça je connais beaucoup moins.
Ouais. Bah c'est ouais et puis aussi le, enfin ça c'est la gestion stratégie. Il y a aussi ouais Stellaris qui enfin qui était très très bien aussi. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Ils n'étaient pas forcés de faire un FPS. On aurait pu s'attendre à n'importe quoi d'autre. Et finalement non, c'est vraiment la suite directe de, enfin la suite. C'est vraiment un Bloodlines quoi. Donc ils changent pas grand chose.
Après, on dit FPS, c'est un RPG vu FPS.
Ouais, RPG vu FPS.
On sait pas encore comment le RPG, mais ils ont parlé quand même que ça a vraiment, vraiment prépondérant. Je commence à parler n'importe comment. Je mange les mots. Et c'est parce que j'ai faim, sans doute. Et donc voilà, oui, comme tu dis, on sait pas plus. On peut peut-être justement partir de là quand même et mettre, boucler un peu tout ça en disant déjà qu'on est, je suppose, toi comme moi, très heureux parce que c'était inattendu et miraculeux.
Ouais.
Et aussi peut-être qu'est-ce que toi par exemple, qu'est-ce que tu voudrais? Alors déjà on est content d'avoir le jeu, je me répète, mais en fait on a l'impression de se répéter, mais je veux dire quand on est vraiment fan de Bloodlines, et on est assez nombreux, on dirait pas comme ça, on se cache, on est comme les Nosferatu, en fait on se terre un petit peu mais toujours prêt à sortir, à jaillir. On est tellement heureux que justement ben voilà, on réalise peut-être pas encore totalement, je pense qu'on aura plus d'infos peut-être à l'E3, j'ai vraiment du mal.
L'E3 de cette année, ouais. Ou à d'autres salons, mais...
Ou à d'autres salons, effectivement, ou peut-être à la Gamescom, peut-être, ou même à la Games Week parisienne, on verra. Et toi, qu'est-ce que tu en attends, et qu'est-ce que tu aimerais, justement, voilà, comme ça, que tu veux voir?
Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, quand tu annonces Bloodlines, bon, on sait qu'au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, etc., ce sera très, très bien rendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on en voudrait? Ben, on va dire... Bah juste un, même pas un Bloodlines 2, peut-être juste un 1.5, c'est-à-dire le même univers, la même ambiance, avec un jeu pas buggé. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent... Enfin, je pense pas qu'ils vont prendre énormément de risques sur les mécaniques. Donc voilà, on va rester dans la FPS RPG, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on sait qu'il y a la volonté des développeurs pour que le joueur il ne se sente pas... limité par des capacités humaines. Donc, par exemple, ils avaient cité un cas concret, donc une porte qui est verrouillée. Donc, c'est soit on utilise la puissance brute d'un vampire qu'on a, ou alors on utilise une capacité de l'arbre de compétences qui permet de se transformer en poussière et de passer à travers la serrure ou je sais plus quoi. Donc, ça a l'air cool. Il y a plein de pouvoirs de vampires. Qui vont pouvoir retranscrire à l'écran si je puis me permettre. Donc, vis-à-vis de ça, je pense que déjà on aura beaucoup de nouveautés. Ensuite, ce qui rassure, alors un truc qu'il faut préciser, donc le jeu se passe à Seattle. Le studio qui développe, il est à Seattle aussi. Donc il faut s'attendre aussi déjà à une bonne connaissance de la ville. Peut-être qu'on va avoir une bonne retranscription de la ville, un petit peu comme fait Ubisoft avec les Watch Dogs par exemple. On va pas critiquer le jeu, mais à chaque fois dans la représentation de la ville, c'est super bien fait. Donc on va voir comment ils vont traiter ça. Ensuite, bon, on sait qu'on aura un univers qui sera quand même très mature, très adulte, parce que franchement, dans Bloodlines, c'est un peu sexe, drogue et rock'n'roll aussi. Et on va dans des coins, c'est mal famé. Enfin, tu te promènes pas en vrai le soir tout seul. Donc pour ça, je leur fais entièrement confiance. On sait qu'il y a du talent à l'écriture. C'est des gens, enfin, tu ressuscites pas Bloodlines 15 ans après pour un succès commercial, c'est complètement faux. C'est des gens qui ont envie de faire quelque chose de bien. Donc je leur fais confiance là-dessus. Donc on attend de voir cette vidéo de gameplay qui a été pour le moment uniquement montrée à la presse. Moi je pense qu'ils vont la montrer à un moment donné, ils vont la montrer au public en entier, ils vont peut-être juste la remonter un petit peu, mais bientôt on aura du gameplay peut-être à se mettre sous la dent, parce que pour le moment c'est juste une intro, une cinématique d'intro basique. Qui déjà situe le contexte et l'ambiance et tout ça, mais bon, il y a pas de gameplay, donc c'est juste là-dessus où, en fait, je vais pas dire que je me méfie, mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont sortir pour que ce soit pas une redite du premier Bloodlines. Mais en dehors de ça, je leur fais confiance.
Ouais, ben comme tu dis, on risque d'être quand même, je pense, fixé assez rapidement, parce que comme tu dis, comme c'est une licence qui a un impact au niveau de certaines franges de joueurs, mais pas du tout public. Donc ils vont être obligés quand même aussi de la marketer, de la vendre. Donc je pense qu'il va falloir en montrer de toute manière assez rapidement. Bon, moi comme toi, de toute façon, moi j'attends surtout le côté, tu sais, je répète à chaque fois dans les podcasts, mais comme tu dis, de toute façon, graphiquement, techniquement, bon, ça tiendra la route. Ça sera peut-être pas démentiel, mais ça tiendra forcément la route. L'ambiance sera là, l'écriture sera là. Moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est le côté roleplay, c'est le côté narratif, c'est les personnages. Vu, comme tu as dit, les talents qui sont là, je me fais aucun souci là-dessus. Donc en fait, je l'attends vraiment... Je suis hyper hypé, comme on dit, c'est probablement dans ce style de jeu là, c'est le jeu que j'attends le plus après, comme on a parlé forcément du mastodonte Cyberpunk 2077. En attendant la sortie de Bloodlines, qui est prévue pour 2020, je pense qu'ils essaieront de le sortir dans une période pas un peu creuse, mais au niveau de ce type de jeu là, pour justement essayer de pas refaire. Bon, on pense pas que Half-Life 3 va sortir en même temps, c'est pas probable.
Pourtant, c'est l'année qu'il faut qu'il annonce maintenant Half-Life 3. Ils ont annoncé Borderlands 3. Stalker 2, enfin, c'est n'importe quoi en ce moment, les annonces.
Peut-être, on verra. En tout cas, ce Bloodlines 2, ouais, voilà, beaucoup, beaucoup attendu pour nous. Et d'ailleurs, un qui va sortir cette année, il n'a rien à voir, mais c'est un jeu d'Obsidian justement qui s'appelle The Outer World. Et si j'en parle, c'est parce que ça n'a pas du tout le côté Bloodlines, mais c'est parce que c'est par les papas de Bloodlines, donc deux papas de Bloodlines, Tim Ken et Leon Laboyarski, qui sont ressortis un petit peu là pour faire un jeu très RPG aussi, RPG FPS. Donc c'est un truc totalement différent, mais c'est un jeu que j'attends beaucoup cette année-là parce que j'aime leur style d'écriture. L'année suivante, on aura Brian Mitsoda qui était sur Bloodlines. Donc c'est cool de voir ces créateurs-là revenir avec leurs plumes. Avalon, qui est toujours dans les coins, j'ai dit, il sera avec Jedi Fallen Order à la fin d'année et avec Bloodlines. Les mecs de Cyberpunk, donc CD Red Project. Bref, c'est cool pour ce côté-là et moi, c'est vraiment ce que j'attends le plus. C'est l'ambiance vampire, c'est retrouver en fait, alors après de manière comme tu dis, qu'ils aient développé un petit peu certaines mécaniques de gameplay par rapport aux disciplines, aux pouvoirs, que ce soit plus sympa.
Ouais, parce qu'il y avait des trucs dans le premier, c'était franchement pas super réussi. Enfin, tout ce qui était combat à distance, il y avait le côté hyper frustrant du « putain, mais je lui tire dans la tête et je lui fais pas de dégâts ». Et ça, c'était le truc un petit peu raté, on va dire, du...
Ah, les combats sont ignobles, franchement.
Les combats sont pas très... Et au corps à corps, c'est encore plus la plaie, parce que t'as l'impression de le toucher, puis en fait, monter à côté. Mais ça, de toute façon, ils l'ont dit, ils veulent changer tout ça. Donc, à voir.
En tout cas, on va voir. En tout cas, voilà, c'est ça, c'est améliorer ce genre de truc-là. Garder, on va dire, ce qui fait la substantifique moelle de tout ce qui est le monde des ténèbres. En tout cas, c'est... On le répète à chaque fois, mais c'est magnifique de pouvoir avoir ce jeu-là. Si vous n'avez qui nous écoutez, celles et ceux qui nous écoutent, jusqu'à la fin, déjà, je vous remercie. Je commence à faire des remerciements anticipés. Mais si vous n'avez jamais fait ce type de jeu-là, comme je vous dis, il est disponible, il est souvent soldé à peu près à 5€ sur GOG. Ensuite, ouais. Il y a quelques modes que vous pouvez trouver assez rapidement, qui sont intéressants. Je mettrai peut-être le lien justement en description, au moins du l'unofficial patch qui permet justement de tout débloquer. N'hésitez pas à vous y mettre, en plus c'est un jeu, donc il y a des quêtes, tout ça, mais c'est un RPG, mais qui se fait grosso modo, on va dire en 25-30 heures, c'est pas non plus, c'est pas The Witcher 3, hein, et ça va pas non plus vous prendre des semaines et des semaines. Le jeu n'a pas trop mal vieilli, il faut passer outre les combats, mais si vous aimez vraiment la qualité du roleplay, de l'écriture, d'un jeu qui est très mature, quand on parle de la maturité dans The Witcher, on en revient. C'était très mature à l'époque, c'est vraiment brillant. Franchement, les auteurs sont vraiment des super plumes. Il faut vraiment mettre l'accent dessus parce que, comme je le répète, je l'avais dit en début de podcast, 95% des jeux à l'heure actuelle, même 95% des jeux, ne sont pas aussi bien écrits que Blue Lines. C'est vraiment une pépite absolue. C'est un diamant brut qui a des défauts, mais il n'empêche que quand on prend la peine de le polir, il est magnifique. Espérons que sa suite le sera. Je vous remercie donc à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Macrémix, je te remercie d'y avoir participé.
De rien, j'en profite pour dire que même 5€ soldés, c'est toujours deux fois plus cher que le prix que j'avais payé à l'époque.
Oui, parce qu'ils écoulaient les stocks, parce que le jeu avait fait un four total.
Ils ont écoulé les stocks, je crois que j'avais acheté à la Fnac en version boîte, et il m'avait coûté moins de 3€.
Ah ouais, mais c'est ça. Moi, je dois être un des rares gogo, parce que j'étais tellement fan qu'il avait acheté Day One à l'époque. Donc moi, je l'ai payé au prix fort.
Ça aussi, on peut en parler, tiens, parce qu'il y a déjà des packages qui sont annoncés, là, avec des prix un petit peu élevés. On sait qu'il y aura des Season Pass avec des DLC. C'est un petit peu dommage qu'ils la mettent juste dans la version ultime du jeu, qui est, je crois, à 90€ en précommande.
Ouais, moi j'attends de voir, surtout qu'en plus, le pack complet, il est qu'en digital. Donc moi, j'attends de voir aussi s'il n'y aura pas une jolie figurine.
Ouais.
Mais je sais pas. Je suis méfiant, je précommande pas du tout. Le seul truc qu'il y a, c'est que si vous inscrivez sur le site du jeu, vous pouvez après scroller, il y a des informations sur le jeu qui sont données. Et il y a des fois des petits logos qu'on peut cliquer, qu'on peut découvrir en fait dans les textes, qui vous permettent de gagner en fait des choses pour débloquer après des tenues in-game. Donc voilà, si vous voulez déjà préparer, vous pouvez le faire. Donc c'est assez sympa. En attendant, ils vont continuer ce côté-là, je pense, un peu, peut-être pas ARG comme ils l'ont poussé pour lancer le jeu.
Non,
mais
maintenant c'est fini.
Mais ils continuent à faire des petits jeux de pistes et pour débloquer justement des tenues en prévision de la sortie du jeu gratuitement. Hein. Donc vous allez sur
le site, voilà, tout ça. Oui, voilà, si vous liez votre compte Paradox avec Twitch, par exemple, vous avez une tenue, etc. Donc... je pense que tous ceux qui ont participé activement, on va dire, à la résolution des énigmes, ils auront, je pense, des récompenses en plus.
Bah, donc, moi, j'ai déjà, tu vois, j'ai juste été sur Tinder, mais j'ai déjà, mon perso pourra avoir un super t-shirt marqué Tinder. Comme ça, je pourrais aller faire ma nuit blanche à Seattle et chercher Meg Ryan sur les toits de Seattle. Donc, c'est cool.
Excellent.
C'est magnifique, je suis très content. Et donc, voilà, donc c'est pour ça. Donc, ouais, effectivement... on verra les prix, ça, on l'attendra. Moi, j'avoue que le précommande Day One, je suis, même pour un jeu que j'attends beaucoup, j'attends de voir aussi comment ça. Puis en plus, je suis quelqu'un de plutôt physique. Ça veut rien dire, dit comme ça, hors contexte, en fait, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais j'aime bien le côté matériel des choses.
Ouais, c'est s'il y a une belle boîte, voilà. Ouais, ça peut donner envie.
Parce que c'est vraiment un jeu qu'on n'attendait pas, donc c'est un jeu que j'ai envie d'afficher comme mon super chevalier de Baphomet, que je n'ai pas encore commencé, l'épisode 5, on en avait parlé dans un précédent podcast. Je vais rembobiner. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, même dans notre digression finale. Merci Macrémix.
Ben de rien.
Et sur ce, profitez bien. Allez vous renseigner sur ce jeu-là si vous aimez l'univers vampire. Si vous aimez les films de vampires, c'est un univers qui est excellent. Moi j'adore, je suis fan, je sais que toi aussi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao.
Ciao. Et on a encore oublié de parler du jeu de rôle, du support pour jeu de rôle de Vampires The Masquerade.
Et tu sais, on a aussi parlé de parler.
T'enregistres toujours là ?
Ouais, mais je sais pas quoi faire.
Et tu le mettras après le générique en bêtisier à la con.
Ouais, ouais. Et en plus, qu'on a oublié aussi de parler du truc le plus intéressant de Redemption, qui était son multijoueur, qui te permettait de créer des quêtes.
Oui, voilà. Ouais.
Mais bon, merde.
Bon, tant pis, allez. Allez, fuck.